Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et environnement.
Charles Sagran est né à Saint-Gédéon, Lac-Saint-Jean, où il a fait son camp de base littéraire. Sa démarche indisciplinaire imbrique œuvres écrites, art de lettres et interventions participatives dans un vaste édifice littéraire, le musée Moi, dont il est l'homme à tout faire. Depuis 2006, il a publié 7 ouvrages aux éditions La Peuplade, et son plus récent, donc le journal d'un bibliothécaire de survie, relate une vaste aventure géopolitique qu'il a menée aux quatre coins du Canada francophone. Écrivain nature, il s'implique activement à Kilomètre Cube, le laboratoire créatif forestier du Centre Bain. Et en 2022, donc l'an dernier, il s'est vu décerner le prix Calque Artiste de l'année au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, sa conférence aujourd'hui s'intitule « Réflexion géopoétique d'un bibliothécaire de survie ». Je te donne la parole.
Moi, je suis Charles Sagalane, bibliothécaire de survie. J'ai comme fait des études avancées en sémiotique à l'Université Laval, donc ça me ramène quand même une boucle. J'ai préparé des petites pistes un petit peu pour vous expliquer la bibliothèque de survie. Mon but est bien simple, c'est d'essayer d'enrichir votre expérience de lecture puis d'entrer en dialogue avec vos propres intérêts. Pour pas que ça soit trop académique, je vous ai apporté quelques artefacts pour vous montrer. Je trouvais ça chouette de remplir ma valise. Donc, grosso modo, j'ai 5 petites pistes dans mon débroussaillage que j'ai fait pour vous sur la bibliothèque de survie. Comme vous avez lu le livre, il y a quelque chose de très chouette pour moi de plonger directement dans l'aventure plutôt que de devoir m'expliquer. Vous voyez, dès les premières pages, ça a été beaucoup d'explications, ce livre-là. Il y a quelque chose d'un peu étrange dans l'aventure. La première chose dont je voulais vous parler, c'est le thème comme boussole. Donc, en géopoétique, mais même en écriture, pour moi, le thème est une boussole. Je fonctionne avec vraiment mon quotidien, matériaux vivants autour de moi, que j'accumule dans mes carnets. Puis à un moment donné, la somme fait en sorte que j'ai le goût de me consacrer à un projet. J'élabore un projet sur souvent plusieurs années. Projet d'écriture, mais projet de lettres au sens plus large, parce que souvent ça déborde le livre de plein de manières. Je dirais que là-dessus, le journal d'un bibliothécaire de survie, c'est un peu le plus ambitieux, mais dès les premiers livres, il y avait toujours une manière de déborder l'objet livre. Ce qui fait en sorte que je ne me perds pas, c'est mon thème. Des thèmes bien simples, qui me permettent aussi de rejoindre mes ateliers d'écriture commencent en maternelle 4 ans. Les personnes les plus âgées qui ont suivi ont peut-être 86 ou 87 ans. J'aimerais bien pouvoir dire un jour de 4 à 104. Peut-être si vous connaissez des centenaires créatifs, vous le direz. Mais donc, le thème comme boussole, le thème de la saveur, donner un livre. Le thème du costume, donner un livre. Le thème des objets du quotidien, donner un livre. Et puis, ces livres-là mélangent quand même la prose, le lyrisme, les modalités d'écriture. L'idée, c'est de partir d'un thème puis d'explorer par l'écriture le plus possible ce thème-là. Dans le cas de Bibliothécaire de survie, c'est un livre très étrange parce que souvent, j'avais beaucoup de matériel accumulé sur les saveurs puis une certaine expertise, puis je me disais, je vais faire un livre là-dessus. Puis là, je partais avec ça. Tandis que pour Bibliothèque de survie, c'est vraiment une idée folle. De dire, je vais prendre un livre que j'ai chez moi, je vais le mettre dans un sac Ziploc, papier, crayon, puis je vais aller voir qu'est-ce qui va se passer. Je fais ça depuis 10 ans maintenant, puis je vais être rendu à l'international avec mes petites bibliothèques de survie, donc c'est pour vous dire de ne pas juger vos gestes créatifs, parce que des fois c'est un peu fou, mais quand on tire sur une petite pelote de laine, il peut y en avoir pas mal. Donc le thème « bibliothèque et survie », ça a été ça dès le début, parce que là j'y allais à l'aveugle. Je me suis bien rendu compte que pour bibliothèque, le fait de placer ça sur une île, ça devenait un lieu sauvage. Fait que pour moi, ça a été le lien entre nature et culture a tout de suite été posé là de manière forte. Et je voulais préserver ça. Pas question de mettre une petite porte pour que les livres soient bien protégés. Je voulais qu'ils vivent une vie sauvage. Je voulais qu'ils voient le paysage. Je voulais qu'il se passe des choses pour eux. C'est eux qui vivaient l'aventure. Je me suis rendu compte aussi qu'une bibliothèque, c'est un lieu d'échange. Donc là, l'idée de prêt public, l'idée d'interaction avec le lecteur, l'idée... il y avait des choses qui sont déjà passées dès le début. Une bibliothèque, c'est un lieu de préservation aussi. Fait que mes livres, Les livres que je mettais, ils se faisaient vraiment beaucoup abîmer, donc d'où le besoin de mettre des petites cabanes. D'où le besoin de mettre un petit mot qui explique un peu que ça ressemble à quoi une bibliothèque de survie, puis les consignes minimales. De peut-être pas partir avec les livres, contrairement à une bibliothèque communautaire. Donc, ces éléments-là. L'idée de bibliothèque, pour moi, rapidement aussi, ça a été le goût de la lecture. Donc, c'est devenu un livre sur mon amour de la lecture et de mon histoire de lecteur. Donc, j'avais une autre piste. Là, je vous fais des grands sillons, mais hein, avant de tracer ça dans le bois, ça a été long, mais les souvenirs, etc., me venaient. Il y avait l'idée aussi de certains livres phares. Ça, rapidement, c'est arrivé. Donc, pour Bachot, pour Thoreau, mais il y avait déjà des livres phares qui allaient guider l'aventure. Quand je m'installe dans un projet d'écriture, une des premières choses que je fais, c'est de remplir une ou deux tablettes de ma bibliothèque avec de ce que j'ai déjà, puis de la place pour en acheter. Donc, il y avait ça aussi. Il y avait l'idée de circulation. Les livres qui étaient chez moi, j'ai été libraire pendant 5-6 ans, donc pendant mes études. Les livres qui étaient chez moi, un bon libraire, c'est ça. Un livre qui est comme ça dans une... Hein, ça ne vit pas beaucoup. Quand on fait le facing, déjà, qui est comme ça, il vit déjà beaucoup plus. S'il est en présentoir, la vie est plus active. Et si on le présente, là, ça vit. Donc, vous voyez, il y a les quatre. Donc, moi, l'idée, c'est, je pense, j'ai réalisé que je pouvais le montrer un peu plus. Je pouvais le mettre en présentoir, mais après ça, je devais en parler, je devais faire circuler. Donc, il y avait cette idée-là de circulation. L'idée de bibliothèque... En la situant sur des îles, ça m'a... C'est drôle, ça me rappelle, je n'avais pas fait le lien, là, mais pour mon doctorat, j'ai fait une année de stage doctoral à Paris, puis je butinais dans les bibliothèques publiques. J'allais travailler dans des bibliothèques de la ville de Paris, dans des quartiers différents, pour changer. Mon point d'ancrage, c'est la bibliothèque Sainte-Geneviève, mais j'allais un peu partout. Je n'allais pas à l'université, déjà. Mais donc, ça donnait une petite idée. Je pense que j'ai... assez rapidement réalisé que chaque île était un décor de lecture. Possibilité différente de créer une bibliothèque différente, avec un écosystème différent, une faune, une flore, un enrobage de lecture majestueux, reclus, accessible. Je me suis rendu compte qu'il y avait des usagers aussi à ma bibliothèque. Celle de l'île aux Poires, c'est des gens en canot, très zen, qui vont là, qui viennent de l'étranger parce qu'ils louent, tout ça. Juste à côté, celle de Conley, ben c'est des gens avec des gros hors-bord qui sont capables d'accoster et qui mettent de la musique très forte, qui brûlent de temps en temps la bibliothèque. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une diversité d'existence là, dans la bibliothèque. Donc ça, c'est le terme bibliothèque. Comment ça s'est structuré? Puis survie. C'était un peu une boutade, bibliothèque de survie au début. Mais franchement, là, la boutade m'a vraiment, vraiment, vraiment rattrapé. Je veux dire, le mot survie, j'aurais pas pu trouver un mot plus fort que celui-là, puis plus riche. Dès le début, j'en parle dans le livre, c'était vraiment ma survie personnelle, c'est-à-dire l'ennui. C'est que je pense que si je crée pas, si je lis pas, si je marche pas, je suis quelqu'un qui va mourir d'ennui. Donc, le livre est un remède à l'ennui. Pour moi, ça, c'était central. Après ça, est venue l'idée de la survie des livres, donc des intempéries, comment les livres, eux, survivaient. Dans un environnement qui est très inhospitalier. Il y avait aussi l'idée de, dans la survie, de transmission. Plus j'approfondissais le territoire, Saint-Gédéon, il y a une habitation Innu depuis 5000 ans. Donc, il y avait cette idée-là de présence et de transmission. Donc, survie est devenue aussi survie du fait français, mais survie aussi des nations autochtones. Donc, survie en territoire aussi. Tu sais, à moins 30, aller poser des livres, c'est pas la même game que le reste de l'année. Dans l'idée de survie, il y a aussi l'idée d'écosystème. Hein, dans une survie, si vous écoutez une émission de Survivor, ben, je m'excuse, mais... On fait ça au Nunavik, il n'y a pas d'arbres, ça va un peu moins bien faire un feu. Donc, il y avait cette idée-là aussi d'ancrage dans être capable de faire un bivouac, être capable de, tu sais. Ça, c'est devenu aussi un enjeu. Après ça, j'ai été rattrapé par le macrocosme, c'est-à-dire la survie des écrivains. Moi, je suis beaucoup impliqué à l'UNEC, donc la survie financière des écrivains. Puis là, ça continue encore, le droit d'auteur, la loi sur le statut de l'artiste. Ça, c'est, il y a eu une espèce d'enjeu collectif qui était là, et financier. La pandémie est venue jeter un éclairage aussi sur le mot survie, assez fort, puis qui, en fait, a rendu possible la rédaction du livre, parce que j'étais équipé au possible, je tournais en fou. j'avais pas le temps de rédiger. Du jour au lendemain, là, j'étais à Montréal, à Ville-Mont-Royal. Le jeudi, il y avait des rumeurs dans les corridors, puis il y avait un parent d'élève qui était en virologie très haut placé, puis les profs pleuraient. OK, t'as peu. Fait que le lendemain, je suis retourné chez moi, puis j'ai pas barré le parc, puis ça a été un an et demi. Donc, je me suis retrouvé avec un grand brûlé d'occupation, puis le livre qui m'a happé. Puis j'ai passé des 40 heures par semaine à écrire, ce que moi, j'ai jamais fait de ma vie. Donc, la survie, la pandémie, quelqu'un m'envoie un article sur le survivalisme, quelqu'un d'autre voit telle chose. Donc, le thème fait une très large boussole. Maintenant que je me suis créé le casting de bibliothécaire de survie, je suis en train de travailler au tome 2, puis c'est tellement facile. Je veux dire, j'ai la forme, j'ai le casting, c'est les gens qui me contactent, j'ai les organismes, tu sais, tout est déjà fait. Fait qu'il y a quelque chose de peut-être moins enivrant dans la construction énorme, mais il y a quelque chose de porté à bout, une aventure qui est un potentiel. Deuxième aspect, l'écriture comme pratique. Quand je crée un projet d'écriture, c'est vraiment pour assaisonner l'écriture avec d'autres pratiques, ou inversement, assaisonner d'autres pratiques avec l'écriture. Si je ne crée pas en tondant mon gazon, je vais m'ennuyer à mourir. Ça va jusque-là. Si je gratte ma côte, si je sable ma côte, s'il n'y a pas une visée artistique à l'action que je suis en train de faire, vous me perdez. Quand j'ai commencé Bibliothèque de survie, le simple geste de départ, c'était je veux plus de plein air. Plus de plein air, ça voulait dire plus de raquettes, plus de canots. Fait que c'était déjà deux pratiques, de la rando à la limite, un peu plus de voyage, de littérature de voyage. Puis là, ben, les trucs s'enchaînent parce que là, c'est canot camping, OK. Après ça, là, autre coming out, mais dans le deuxième, il y a de l'archéologie amateur. Là, je l'ai caché, mais là, je vais toujours faire un coming out. Après ça, pour les bibliothèques de survie, c'est bête à dire, mais l'ébénisterie. J'aime confectionner dans le rustiquement coquin, il faut que ça soit croche. La pyrogravure. Je peux vous dire que quand j'écris quelque chose comme ça ici, cette citation-là a reporté. Ça me prend à peu près une heure à reporter. Parce que le crayon devient tellement chaud que, tu sais, fait que faut qu'elle soit disposée, etc. Ça change le rapport à l'écriture, là, cette lenteur-là. Le géocaching, la photographie, le land art aussi, parce que je me suis rendu compte que des fois, je voulais me reposer de créer, fait que je faisais juste des trucs en équilibre. 40 minutes à faire un équilibre, ça tient. Donc, il y a un rapport créatif que je voulais créer, mais je veux me vider la tête aussi. Le Shinrin-yoku que j'évoque un petit peu, mais maintenant je suis guide certifié de Shinrin-yoku, donc c'est une pratique d'immersion sensorielle, une espèce de méditation pleine conscience via les sens en forêt. Tout ça vient vraiment enrichir l'écriture. Puis là, après ça, il va y avoir les outils. Ce carnet-là est très pratique, mais ça fonctionne ne plus à moins 30, donc ça prend le carnet de mitaine. Puis le carnet de mitaine, il y a un autre rapport. Le haïku me permet d'écrire en marchant 1 km, puis en revenant, puis en ciselant mon haïku. À la limite, l'enregistrement vocal aussi, etc. Là où je me plonge, c'est les saveurs, les costumes. J'ai un recueil complet de costumes que j'ai résumé dans une formule. L'habit ne fait pas le moi. Fait que c'est de passer d'un à l'autre, donc. Je m'amuse encore beaucoup. Chacun de mes livres continue de vivre. Voilà pour l'écriture comme pratique. Au contact d'autres pratiques, forcément, ça va changer l'écriture. Pour moi, c'est vraiment important. Ça décrasse l'écriture. Ça prend du crayon de plomb HB. Ça prend l'efface qui fait tenir le crayon. Les Midori qui sont archi-résistants, qui n'ont pas de ligne. Table des matières à la fin, qui me permet de reporter une partie. Et avec vous, je célèbre mon 100e carnet. Carnet de mitaine, mais aussi pour mes projets d'art de lettres, là, je suis rendu avec des grands Midori pour spatialiser l'écriture. C'est pas des paragraphes, il faut que je spatialise où on se place la bulle, où se placent les éléments. Troisième des cinq, le livre comme expérience. Je vous ai dit un peu comment je m'éloignais du livre, mais de voir le livre comme une expérience, pour moi, c'est devenu un enjeu du projet. C'est vraiment sur les îles que j'ai réalisé que le livre était une fabuleuse interface de papier. Une technologie suprême, sans électricité, sans. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose d'absolu dans le livre, là, dans le format dont il est là, avec, tu sais, l'aisance de lecture, la facilité de disposer, tout ça. Donc, il y a eu un enjeu par rapport à ça. Le livre qui peut bien circuler ou qui peut difficilement avec les intempéries, mais ça, il y avait cet enjeu-là dans l'expérience du livre. Le livre est devenu une expérience aussi parce que, avec le prêt public, comment ça allait se passer avec les usagers? Des trucs aussi simples que faire pour qu'ils referment le sac comme il faut, ou je vois plein de petits prénoms, donc ça va prendre des livres jeunesse à cet endroit-là, ou visiblement, c'est la troisième fois que je fais brûler la bibliothèque, on va trouver une stratégie pour s'éloigner puis revenir plus tard. L'expérience du livre, pour moi, comme bibliothécaire, il y avait un enjeu là, expérientiel de comprendre comment ça se passait parce que l'environnement était tellement différent que ce n'était pas la même chose que dans une bibliothèque publique, dans votre bibliothèque personnelle, et même les référents des gens, les bibliothèques communautaires, etc. Ceci dit, les bibliothèques communautaires, l'enjeu est beaucoup plus en mode périurbain. Par exemple, ici à l'Île-Sainte-Hélène, au Mont-Royal, Cap-Diamant, quand je suis en lieu périurbain, ça change beaucoup la dynamique. Puis ça, je vais essayer de l'étudier aussi dans le deuxième tome, là, parce que j'en ai placé une en 2019, j'ai gardé ça comme matériel, sur l'île aux Cygnes à Paris. C'est une digue qui est en face du pont de Grenelle, pas loin de la Tour Eiffel. Il y a des beaux grands arbres centenaires qui ont été placés là, qui viennent de partout dans le monde. Fait qu'on est accueillis par une ambassade arboricole, c'est formidable. J'en ai placé une là, j'ai attendu pendant une heure pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Il y a au moins 100 personnes qui sont passées avant qu'une personne remarque la bibliothèque. Vous imaginez, sur une petite île au lac Saint-Jean, il passe 10 personnes par semaine. Mais ces 10 personnes-là ont des grandes chances de... Ah, c'est quoi? J'ai réalisé aussi que le cadre jouait beaucoup. Puis les gens me le disent aussi, soit par les petits mots, soit en témoignage, mais c'est tellement agréable. On a pris le livre, on a ouvert, on a lu 3-4 pages en famille, on a refermé. C'est pas l'injonction de « je prends le livre, je le lis de A à Z », et tu sais, ça changeait vraiment le rapport. Puis je m'excuse, j'en parle un peu dans le livre, mais le lac se dénoue, vous avez ce verre-là, il y a des rapports, il y a des effets de sens qui sont très, très forts, qui font que l'expérience du livre est changée. Ça faisait partie aussi de ces éléments-là. Dans l'expérience du livre, il y avait aussi l'expérience de presque de médiation culturelle. Donc, les symposiums des arts de neige là, que j'ai menés avec des gens en raquette. La suite, mais l'idée de créer une rencontre entre lecteur, lectrice et écrivain, écrivaine, bibliothécaire, etc., mais de créer un nouveau lieu d'échange, ça créait quelque chose de particulier pour le livre, là, comme expérience. Si vous venez à Saint-Gédéon, que vous allez à la plage de l'Auberge des Îles, puis que vous allez chez Equinox Aventure, vous pouvez louer un canot, un kayak, etc., pour aller faire le tour des îles, mais vous allez pouvoir vous procurer une petite visite autoguidée de mes îles. J'ai appelé ça 3 activités de survie. Vous avez une carte, un beau petit dépliant qui a été fait par Julie Espinasse, qui fait la peuplade, donc super soignée. Vous allez avoir 3 activités à mener sur des îles, de création, mais au sens très large de création, d'écriture. Ça faisait partie aussi de diversifier l'expérience de la bibliothèque de survie, de créer comme autour du livre, avec le livre, par le livre, d'autres sentiers d'approche de cette expérience-là. Pas juste la surprise, mais la découverte, la prospection, etc. Dernière chose pour le livre comme expérience, mais quand on lit le récit, on se rend bien compte qu'il y a le livre avec un grand L. Puis pour moi, ça a été marquant comme écrivain. C'est vraiment... de dire, c'est pas moi qui mène cette aventure-là. J'ai juste rempli une grosse boîte en mettant des choses, puis à un moment donné, ça déborde, je sais pas où je m'en vais avec ça. Je suis mon rôle de bibliothécaire, j'essaie de réduire, de rendre raisonnable, hein. Puis à un moment donné, le livre pousse, le livre veut se faire, le livre... C'est la première fois où c'était... où l'intuition était très importante comme ça, où il y avait une espèce de... faut dire, une passivité d'inspiration, c'est-à-dire que je fais juste répondre aux impulsions. Pour moi, ça a été un gros apprentissage, lâcher prise, un saut dans le vide aussi, parce que je me disais au début, jamais je serais capable de faire tenir ensemble mon amour du Japon, les Inuits, mes ateliers d'écriture, mes raquettes. C'était complètement éclectique. Ce qui fait que, pour moi, l'expérience du livre, c'est aussi l'expérience de ce qui est devenu un livre pour moi. 4e de 5, la poésie comme forme. Donc, pour moi, c'était aussi un bon enjeu de renouveler mon rapport à la poésie dès le début du projet. Il y avait l'idée que, en fait, je pense que je travaille par cycle. Mes 3 premiers recueils, où il y a beaucoup de parenthèses, où c'est très épuré, c'est une espèce de premier cycle. Après ça, les saveurs, costumes et bric-à-brac, les objets, il y a plus de prose, c'est plus touffu, puis c'est plus des expériences un petit peu indisciplinaires où on sort et tout ça. Puis la bibliothèque de survie, mais là, ça entreprenait un cycle d'écriture nature où il y a beaucoup de plein air. Quand on regarde mes recueils, c'est à peu près toujours accompagner le lecteur dans une matière, lui faire vivre une série de fiches de saveurs, lui faire traverser l'antichambre de la galerie des peintres, l'amener avec moi en Inde par-dessus mon épaule pour voir ce qui s'est passé dans mon carnet. Il y avait toujours ça. Donc la narrativité était toujours là, c'était toujours des espèces de recueils concepts avec de la narrativité. Puis même le dernier, s'il y avait plus de narrativité, c'est l'histoire d'un poète accumulateur dont la blonde dit « jette donc ça », mais qui veut pas. L'idée, c'était de renouveler ce rapport-là à l'écriture, à la forme poétique. Donc, renverser puis mettre à l'avant-scène plus la manière de raconter l'expérience poétique et avoir un ancrage poétique. Donc ça, j'ai beaucoup pataugé jusqu'au moment où, tu sais, dans les relations des Jésuites, dans ci, dans ça, dans plein d'affaires, dans plein d'écritures brèves, jusqu'au moment où j'ai découvert dans la tradition japonaise, ben, j'ai pensé au haïbun, l'idée d'avoir une alternance entre les petits haïkus puis la prose. Puis pour moi, dès le début, ça faisait le continent de prose, les îles de poésie. Puis ça, c'était deux modalités. Pour moi, ça, c'était le jeu d'écriture qui me plaisait. Où je pouvais sauter de l'un à l'autre. Des fois, je faisais disparaître un gros paragraphe que je transformais en haïku. Donc, il y avait vraiment cette respiration-là de l'un à l'autre. Il y a une pause dans le récit qui donne l'haïku, qui relance le récit et inversement, là. On peut butiner d'haïku en haïku en se donnant le contexte par le récit, mais on peut aussi se donner la photo, le cliché poétique par le haïku en circulant inversement. Quand je me suis mis à vraiment gratter du côté de Basho, ben là, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait les Nikki et les Kiko étant les journaux de voyage, où il y avait les deux haïkus, puis les Nikki étant des journaux de séjour. Et là, j'ai trouvé la forme du livre en disant, ben, je vais faire une alternance entre séjour sur les îles, voyage, séjour sur les îles, voyage. Et donc là, le livre s'est vraiment structuré grâce à ça, mais toujours avec une vision vraiment poétique de l'espace, lyrique. Très lyrique, mais rendre ça accessible. Puis pour moi, ça, c'est souvent, il y a beaucoup de lecteurs qui me disent j'aime pas la poésie ou je connaissais pas ça, les haïkus, j'ai aimé ça dans ce livre-là. Pour moi, il y avait quelque chose d'accessible là-dedans. Petit à petit aussi, avec Basho, il y a eu le lyrisme de la nature qui s'est incrusté. Puis là, ben, on peut ajouter les Kochia, Génie, toute cette prose-là. Puis là, dans ma tête, j'ai remonté aussi à Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, Damas, pas de vin. Il y a une grosse veine, mais ça a été l'idée de rassembler tout ça pour me donner une espèce de souffle d'écriture nature. Puis quand je dis écriture nature, pour moi, c'est une espèce de syntagme qui n'est pas, c'est pas la traduction de nature writing, là. Il y a nature writing, mais pour moi, écriture nature, ça emprunte à Tesson. Ça emprunte à toute la veine américaine, Dillard, tout ça. Ça emprunte à, ici, les ancêtres de la géopoétique, là, comme Damas Potvin, que j'aime beaucoup, Arthur Buis, Taché, avec Forestier, Voyageur. J'ai pas encore creusé beaucoup, mais j'ai creusé un petit peu les relations des Jésuites. Mais tu sais, on peut imaginer tous les écrits de la Nouvelle-France. Tu sais, c'était la lettre, c'était le... Donc, il y a quelque chose d'archétypal je pense, dans la bibliothèque de survie avec la lettre, avec la relation boréale, etc. J'ai été beaucoup guidé par la poésie innue, Joséphine Bacon, mais aussi Marie-André Gille, cette manière-là d'aller à l'essentiel. Donc pour moi, le nomadisme poétique, c'est tu es capable de réciter ton poème. C'est léger. Ça va partout. Retrouver un peu une oralité pour moi aussi, retrouver une mémoire, j'ai pas beaucoup de mémoire, donc être capable de réciter des choses. Pour moi, ça, c'était très important. Il y a eu un gros apport des œuvres des écrivains bibliothécaires et des voyages que j'allais faire aussi. Ça l'a nourri aussi l'inspiration poétique. Il y en a qui c'était des poètes, il y en a qui c'était des romanciers, tout ça, mais il y avait une relation poétique au territoire qu'on instaurait ensemble. Les mots de lectrice et lecteur, pour moi, c'était une poésie, petite poésie du quotidien. Avec des fois plein de fautes, avec juste c'est formidable, on est en bateau, ils mettent les prénoms. Il y avait quelque chose de très, très pur qui me rappelait toujours pourquoi je le faisais. Pas m'éloigner. C'est pour ce contact-là. Là, je suis chanceux parce que là, les lecteurs viennent à moi. Comme ça a créé un cycle. Puis oui, je pourrais ajouter des expériences de poésie typographique, des éléments aussi avec, je disais, l'alphabet des troncs et tout ça. Fait que donc, la forme poétique, c'est un peu dissoute, c'est un peu imprégné de la prose, imprégné de plusieurs traditions poétiques, imprégné de la nature. Voilà pour la poésie comme forme. Le dernier point, c'est la littérature comme rencontre. C'est fou comment ce geste-là de poser, mettre un livre sur les îles a créé une cascade de rencontres. La première, bien, vous en avez été témoin comme lectrice-lecteur, c'est vraiment mon ami Diego, qui était bibliothécaire à la bibliothèque municipale à ce moment-là. Mais tu sais, le découvrir sur cet aspect-là, puis échanger vraiment beaucoup plus sur sa pratique de lecture, sur le territoire, puis lier canot et ça, lier archéologie et ça. Donc ça, ça l'a déjà donné une bonne tangente. Je les ai appelés les proches aidants. Le survoleur Rémi avec tout le côté encyclopédie de village. L'archiviste Louis, faire survivre des livres du grand séminaire. Les photographes de survie, Sophie et Simon. C'est là, je vais en parler plus dans le deuxième tome, mais plein de projets photographiques liés à ça. Puis les titres généralement honorifiques qui sont un peu en boutade, mais mon cousin Alain qui est imprimeur, mais c'est un métier du livre. Puis c'est lui qui m'a fourni les petits cartons. Il y a vraiment une confrérie là. Ça peut être très matériel, tu sais, qui me donne le carton, qui me prête son canot, mais ça peut être aussi beaucoup plus livresque, etc. La rencontre aussi, après ça, après la première phase, ça a été avec les écrivains et les écrivaines bibliothécaires. Et là, je me suis vraiment payé la traite parce que là, j'ai choisi une équipe d'étoiles, d'écrivains et d'écrivaines que je voulais rencontrer depuis longtemps ou que je connaissais, mais avec qui je voulais collaborer. Puis maintenant, je fais beaucoup de collaborations. Fait que ça a été une ouverture d'aller vers l'autre, de casser ma gêne, de dire, tu sais, Serge-Patrice Thibodeau faisait 2-3 fois que je mettais son livre en survie, de le contacter, puis là, de mettre la roue en branle, de ça a tellement créé de trucs puis d'échanges. Depuis ce temps-là, je suis retourné à Miscou, je suis retourné à Moncton. Je fais venir Bertrand Naillet de Winnipeg. Il vient faire une semaine en forêt ici pour qu'on fasse des trucs. Ça a vraiment créé une espèce de confrérie de création. Donc, cette littérature comme rencontre-là, c'est vraiment comme rencontre créative. Les inspirateurs et les inspiratrices aussi. Comme rencontre, c'est pas pour rien que j'ai écrit une lettre à Bachot ou à Toro. Il y a vraiment un rapport intime. Je m'adresse vraiment à eux, là. Peut-être qu'ils m'entendent, là. Mais pour moi, ça, il y a une rencontre. Puis, dans le livre, il y a beaucoup de lettres qui ont été retirées. Puis, pour le mieux du livre. Parce qu'il y avait beaucoup de lettres qui, je pense, qui n'étaient pas aussi profondes dans la rencontre que ça. Je pense que 3 rencontres, c'était assez, là, avec Joséphine. Après ça, est venu les libraires de survie, puis les lecteurs et les lectrices de survie, pas les visiteurs-visitrices, mais les lecteurs et lectrices. Il y a le savant de survie là-dedans, les savants et les savantes de survie. Pour moi, il y a comme quelque chose qui crée une dynamique qui est particulière par rapport aux autres livres. C'est comme si là, je l'absorbais dans le réel, puis je pouvais en témoigner. Cette écriture-là du réel accentue l'effet de rencontre. Il y avait toujours eu ça. Mais des fois, il y a peut-être même des lecteurs, lectrices qui se demandaient si c'était pas du name-dropping. Là. Pourquoi tu parles de Bertrand Laverdure dans tes saveurs ou de Daniel Cantier? Pour moi, c'était déjà des collaborateurs. C'était aussi important de dire que je mange des croustilles avec Virginie que je bois un scotch avec Daniel Cantier. Et c'était une authenticité de création. Fait que là, c'est vraiment de plus en plus marqué. Là. Puis c'est de plus en plus flou aussi parce que toi, tu as pris la photo, moi j'ai le carnet, moi je vais écrire sur ta photo. Ça devient des objets hybrides aussi. Donc la rencontre va jusque-là.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados ou ici sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.